vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio. Ce n'est pas vraiment un atelier, pas tout à fait une galerie non plus. C'est un entre-deux. Un lieu où la laine s'entortille au silence et la couleur grimpe au mur sans prévenir. Il y a un souffle dans l'air, un bruit sourd, presque organique. Une machine qui pique, qui pulse, qui dessine dans la matière. Et puis Marie, le regard posé, le geste qui sait. Elle invente des tapis comme on inventerait des paysages, des territoires doux à habiter des yeux. Oui, je vous le disais, elle s'appelle Marie Rocher, elle fait des tapis, oui, mais surtout elle fabrique des surfaces à ressentir. Et tout devient plus lent, plus précis. Un geste, un fil, un autre, une couleur, un silence. Ce grand format est une rediffusion d'un reportage diffusé pour la première fois le 21 mars dernier. Un moment de rencontre et de création que l'on avait envie de partager à nouveau, tant il résonne encore. C'est pas un métier qu'on croise souvent, c'est pas un atelier où on s'arrête par hasard et pourtant, c'est là qu'on va aujourd'hui, à Moulay, dans le Nord Mayenne, dans l'atelier de Maïfil 53. Le grand format s'y glisse, suivez-moi.
Voilà. Et on joue, voilà. Et on monte comme ça, sur la toile.
Je m'appelle Marie Rocher, j'ai 56 ans et je suis tapissière tufteuse. C'est une technique très ancienne, le tufting. C'est du tissage de la laine et ça se fait avec un outil électrique qui est muni d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Voilà. Et donc on tisse la laine, on obtient soit des fils coupés ou des boucles.
Quelle a été votre première rencontre avec ce savoir-faire-là, Marie ?
La première rencontre remonte au moment du Covid. Voilà, on a eu un petit peu de temps pour nous et puis j'ai découvert ça sur Internet et je me suis intéressée à cette technique. J'ai regardé beaucoup de vidéos et après j'ai suivi aussi des formations avec des professionnels. Voilà. Et donc, suite à ça, j'ai acheté un kit démarrage et je me suis lancée.
Vous vous êtes lancée jusqu'à ce que ça en devienne votre métier. Il y a eu un déclic et même un changement de vie, on peut le dire.
Pour revenir un petit peu en arrière, je suis de formation prothésiste dentaire. Donc, un métier manuel que j'ai exercé plus d'une trentaine d'années jusqu'à fin 2023. Je m'étais dit, cette idée de vouloir créer mon entreprise, de trouver une activité manuelle, m'a toujours intéressée et trottée. Il fallait trouver l'activité. Ça s'est produit en 2024. Voilà, tous les voyants étaient au vert, familiaux, conjoncturaux, on va dire. Et puis, je me suis lancée dans la création d'entreprise. Et pour essayer de vivre de mon activité, pour pas avoir de regrets surtout. Voilà, de se dire que la retraite c'est pas pour tout de suite, je peux encore faire quelque chose, et m'épanouir dans ce que je rêve de faire.
Vous avez été soutenue autour de vous ?
Oui, ça c'est très important, oui. On se lance dans un projet comme ça si les personnes autour de soi nous entourent et nous encouragent. Ouais, j'ai trois enfants et un mari qui me soutiennent amplement sur toute mon activité. Oui.
Et donc vous avez créé votre entreprise Maïfil 53.
Pourquoi j'ai appelé mon entreprise Maïfil ? Parce que nous sommes arrivés en Mayenne en 2000. Nous sommes Rouennais d'origine. Et en arrivant dans le département, nous avons adoré. Je voulais marquer l'identité forte de Mayenne et la promouvoir. C'est surtout ça qui m'a lancée en écrivant Mayenne 53. Voilà, Mayenne Phil, donc Maï comme Mayenne et Phil comme la laine. Voilà.
Et alors Marie, dire que vous créez des tapis serait un peu réducteur sur l'ensemble des choses que vous faites.
J'ai à peu près quatre domaines d'activité. Le premier domaine, c'est donc les tapis, les créations et la personnalisation de tapis au sol. Voilà, pour un salon, une entrée, une chambre. Après, ce sont des tableaux muraux qui sont tissés, alors soit encadrés ou non encadrés. Et ça, c'est une deuxième activité. Et là, il me reste deux autres activités qui sont un petit peu plus axées avec des professionnels, ce que j'appelle la décoration murale, que j'envisage surtout avec les décorateurs d'intérieur et les architectes d'intérieur. C'est de proposer aux clients, on oublie le papier peint et on vient coller des formes tissées sur le mur, voilà, pour décorer un mur, pour décorer au-dessus d'un canapé, une tête de lit, voilà. C'est animer un mur en lui donnant un petit peu plus de relief. Et la laine apporte de la douceur et de l'acoustique. Et puis, donc, il reste une quatrième activité qui est la reproduction de logos. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les professionnels. Je tisse le logo de toutes les entreprises, que ce soit même les professions libérales. Ça peut être aussi les établissements, je dirais, hôteliers, gastronomiques, voilà, pour apporter un peu de caractère et apporter un peu de luxe pour montrer leur identité.
Tous les métiers d'art, tous les métiers de création comportent beaucoup de choses. À quoi ressemble le quotidien de votre métier, Marie ?
Oui. Alors, c'est pour ça que c'est primordial pour moi de développer les domaines d'activité avec des professionnels, parce que il y a le côté à la fois artistique où on est artiste, on est dans son atelier et puis on crée, on peut organiser une ou deux expos par an et on est tout seul. Et ça, je le conçois pas comme ça, mon métier. Moi, ce que je veux, c'est aussi avoir un lien avec les professionnels, arriver à avoir un partenariat avec les clients et essayer de répondre à leurs demandes dans la décoration, dans un projet immobilier, décoratif, voilà, pour mettre une identité propre à chaque personne. Voilà, c'est de répondre à ça, c'est ça qui m'intéresse.
Au-delà de la partie reproduction de logos, d'identité visuelle d'entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient à une patte dans vos créations plus personnelles ?
Peut-être qu'une attirance pour le Bauhaus. Le Bauhaus, c'est un style artistique du début du XXe siècle qui m'a toujours suivi dans ma décoration personnelle. C'est à la fois géométrique, c'est à la fois très coloré et c'est infini. Voilà. On peut, avec des formes rondes, des formes de demi-disques, de disques, voilà, faire des dessins. Et c'est un peu abstrait, voilà, on va dire. Je reste un peu dans l'abstrait.
Cette baguette qui fait tout le tour est remplie de clous et on vient tendre une toile de moine dessus. Une toile de moine qui se présente un peu comme ça. Voilà, c'est comme une toile de jute, mais beaucoup plus rigide. Les clous permettent vraiment d'avoir une tension importante, parce qu'une fois qu'on a bien tendu, on vient reproduire le dessin du tapis que l'on veut tisser. Alors, soit à la main levée, soit en rétroprojecteur.
Dans votre atelier dans lequel on se trouve actuellement, on voit plein de bobines de couleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire des matières que vous utilisez pour créer ?
Oui, alors je travaille avec deux sortes de fils. Soit un fil où c'est 100% laine de Nouvelle-Zélande, et qui est utilisé principalement pour tout ce qui est tapis au sol, parce que ça permet d'avoir une résistance à l'usure beaucoup plus importante. et ou résistante plutôt. Et puis sinon, j'ai un deuxième fournisseur de fil où il y a 30% de laine de Nouvelle-Zélande et 70% d'acrylique. Voilà. Donc là, ça m'apporte aussi, c'est un intérêt parce que ça, le fil est beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Et des fois, quand on travaille sur la hauteur de laine, ça permet d'avoir des textures différentes et donner des effets différents.
Un espace de travail, un atelier de création, c'est un endroit dans lequel on doit bien se sentir. Est-ce que vous pourriez le décrire pour l'auditeur de l'autre radio, cet endroit ?
C'est un espace où... Il y a beaucoup de couleurs, voilà. C'est rempli de bobines de toutes les couleurs. Ça m'inspire. Je les ai en permanence face à moi. Et c'est une pièce très lumineuse, voilà. Ça, c'est primordial parce que la lumière, j'en ai besoin pour travailler, pour voir par transparence, pour voir les défauts aussi. Et puis c'est une pièce aussi qui a besoin aussi de pouvoir baisser les rideaux ou les volets pour de nouveau être dans l'ombre ou dans la pénombre pour travailler avec le rétroprojecteur. Voilà. Donc ça c'est important, de la lumière naturelle, besoin d'avoir de l'obscurité si besoin, c'est ça. Et puis pouvoir tourner autour de ces de ces cadres, voilà, que je puisse aller de chaque côté en permanence, à l'endroit, à l'envers, je suis en permanence de chaque côté des deux.
Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous travaillez, Marie ?
Bonne question, oui, beaucoup, oui. Ouais. Quand je cherche les idées, c'est de la musique classique, forcément.
Les opéras, ça c'est sûr, la Traviata, Nabucco, j'aime beaucoup. Danzón particulièrement aussi. Pourquoi Danzón ? Parce que j'ai joué longtemps de la clarinette et je faisais partie d'un orchestre et j'avais joué ce morceau-là et c'est fort, c'est un mouvement, c'est une belle musique. Thank you.
Vous écoutez toujours l'agité du local, c'est le grand format. Et nous sommes toujours en compagnie de Marie Rocher, tapissière tofteuse à Moulay.
On vient commencer à couper, voilà, à raser la longueur des poils que l'on veut faire, ou donner aussi des formes. Si on veut biseauter, voilà, accentuer un relief et choses comme ça.
Okay, wow, super. Ouais,
ouais. Et donc là, dans ce tapis que j'ai fait, moi, je mélange une autre technique. Là, ce que je vous ai montré, c'est la technique du tufting. Donc, c'est ça et ça.
Marie, dans la création d'un tapis, il y a énormément d'étapes.
Oui, bien évidemment. Alors, le travail, il se décompose un peu comme ça, c'est-à-dire que on se lance pas tout de suite sur son métier à tisser et à tisser. Ça demande une longue réflexion sur qu'est-ce que l'on veut faire, qu'est-ce que l'on veut essayer de montrer. Faut chercher aussi des nouvelles idées. Donc ça prend du temps. Donc on travaille avec sur papier, avec un crayon, pour ma part, et avec des calques, des choses comme ça, et on vient peaufiner la forme. Et une fois qu'on a obtenu la forme que l'on souhaite, on peut enfin la reproduire sur la trame du tissu. Et là commence le travail vraiment manuel. Alors, donc c'est un travail très minutieux qui, pour ma part, je vois pas le temps passer. On peut passer des heures à faire ça. C'est bénéfique. C'est important pour moi de travailler de mes mains. C'est un temps de méditation presque, des choses comme ça. Et puis après, il y a une autre phase aussi qui est intéressante, c'est qu'une fois qu'on a tout tissé, on peut enfin sortir la trame et la découper. Et là, dans les finitions, on a de nouveau un travail créatif où on vient resculpter le tapis d'une certaine forme qu'on n'avait pas forcément pensé. Voilà, arrivent de nouvelles idées de création à ce moment-là.
Justement, j'allais vous demander quelle est la part d'improvisation possible dans votre processus de création. Est-ce que tout doit être bien pensé en amont, ou est-ce qu'il y a un moment des libertés peuvent se prendre en cours de route ?
Alors, on peut se l'autoriser, mais avec certaines limites, parce que bon, quand on tisse, on peut toujours arriver... si on est mécontent d'un endroit, on peut enlever les fils parce qu'il n'y a pas de nœud au départ. Donc le tissage se permet justement de retirer la laine qui nous gêne, soit changer la couleur, soit changer l'endroit. Donc ça, c'est bénéfique. Et après, au niveau créatif, une fois fini en collé, par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que un mauvais geste, une mauvaise coupe, et ben, je dirais le tapis peut être foutu, quoi. Donc, faut prendre son temps, faut savoir où on va.
Depuis la création de votre entreprise, Marie, est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement touchant pour vous, particulièrement marquant ?
Ce qui peut être émouvant, c'est la première fois où on fait une vraie vente. Voilà, ça aussi, on se dit, bah, ça y est, j'ai peut-être réussi à lancer mon entreprise, et on est fier de soi, quoi. C'est un moment où on se dit peut-être que faut y croire, on y croit, il y a des gens qui croient en nous, c'est ça qu'on cherche, et que ça leur plaît, c'est ça. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est la satisfaction du client quand il voit son tapis fini et qu'il en soit content. Voilà.
On aime bien aller à la rencontre d'artisans dans cette émission, et alors peut-être ce que je retiens, c'est que ce qui n'est pas si évident que ça, finalement, c'est de lancer son entreprise, de faire tourner la boutique, comme on dit.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que je n'imaginais pas. C'est difficile, je dirais, c'est difficile. Autant j'étais concentrée sur mon côté artistique, sur ma technique, lorsque je me suis lancée dans mon entreprise, mais j'avais pas idée de ce que c'était un business plan, d'une étude de marché, des choses comme ça. Donc j'ai pris le temps pour ça de suivre une formation avec la Chambre des métiers. Voilà, j'ai suivi la formation Accès Entrepreneur de 6 semaines avec la Chambre des métiers et la Chambre du commerce et de l'industrie. Voilà, ça m'a beaucoup aidé à, je dirais, partir d'une idée bien générale et d'arriver à cibler quel va être mon client, où je veux aller, définir mon produit, comment je vais le commercialiser. Voilà, c'est des questions pour ma part qui j'avais du mal à me projeter et à donner des réponses, et ça m'a vraiment aidé. Voilà.
J'imagine qu'il y a quelque chose aussi de touchant pour vous quand une de vos créations trouve sa place à l'intérieur d'un domicile, d'une famille, qui l'ont choisi, qui ont fait appel à vous.
Moi, je suis très contente de voir mes tapis qui vont voilà, dans des familles, et puis je vois les enfants jouer dessus. Justement, c'est fait pour ça, quoi. C'est fait pour vivre, c'est fait pour s'en servir. Voilà, c'est pas une œuvre qui doit rester dans un petit coin.
Je viens travailler avec un autre outil et ça me permet de faire des boucles, mais je travaille avec des hauteurs différentes. Ça permet de jouer sur les reliefs. Là, vous voyez, ça, dans le, ça donne un peu de volume et choses comme ça. Et donc, c'est une aiguille. J'ai différents outils. En fonction de la hauteur des boucles, dépend de la longueur de mon aiguille. Plus elle est longue, plus les boucles vont être longues. Donc là, ça me permet de...
Thank you.
Vous venez d'écouter avec nous la pavane de Gabriel Forêt. C'est le grand format dans l'agité du local et nous sommes avec Marie Rocher. D'ailleurs, Marie, votre métier dans 10 ans, vous le voyez comment ?
Ben, écoutez, premièrement, j'aimerais pouvoir vraiment en vivre. Ça, c'est l'objectif de cette année et de me faire connaître parce que c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est pas tant la technique, c'est aujourd'hui, comme c'est assez nouveau, il faut que j'arrive à me faire connaître pour que ça rentre un peu dans les habitudes de chacun et qu'ils comprennent que ça peut... Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut rentrer dans l'intérieur des maisons, quoi.
Alors Marie, on a un peu parlé de votre technique, de cette pratique. Est-ce que c'est une pratique comme celle qu'on pouvait connaître il y a des années en arrière ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans le temps ?
Oui, alors c'est une technique qui est très ancienne, alors qui ne se faisait pas avec un outil électrique, qui se faisait avec une aiguille comme ça. C'était mécanique, en fin de compte. Mais ça a plus d'un siècle d'existence, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas la même chose que le tissage où on sert un métier à tisser avec une navette qu'on passe à travers les fils et choses comme ça. Hein. C'est deux techniques complètement différentes.
C'est comme Pénélope qui attendait Ulysse alors.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Alors, vous serez présente aux Journées européennes des métiers d'art à Jublin. Qu'est-ce que c'est que cet événement, dites-nous ?
Alors, les Journées européennes des métiers d'art, c'est pour les artisans qui sont référencés métiers d'art. Donc, moi, je suis référencée là depuis le 2024 métiers d'art. Et donc, ce sont des journées nationales. Là, c'est organisé en Mayenne au Forum des métiers d'art de Jublin, qui vont avoir lieu pendant 3 jours, le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 avril, voilà, de 10h à 18h.
Alors Marie, pour terminer, j'ai envie de parler peut-être de transmission sur cette passion que vous pratiquez aujourd'hui au quotidien. Il y a une toute première fois, il y a des années et des années de ça, vous avez pour la première fois touché ou espéré toucher en tout cas un métier à tisser. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
C'est vrai, on peut parler de transmission. Alors moi, elle remonte à, je dirais, à l'âge de 5 ans à peu près. Voilà, 5-6 ans. On était dans une famille où mon père, architecte et peintre, il avait sur une toile à canevas, il avait reproduit une tapisserie de Robert Vogonsky. Et il l'avait dessiné et on venait, toute la famille, tisser. Cet atelier, il était dans le salon et donc il n'y avait pas la télé. Et on venait en fin d'après-midi ou le soir tisser les uns les autres quand on avait un petit peu de temps. On avait envie de faire du rouge, on faisait du rouge. On voulait tisser, broder du noir, on brodait du noir. Et moi, je voyais mes 3 frères et sœurs tisser. Et j'étais la petite dernière et à 5 ans, j'avais pas trop le droit de trop toucher aux couleurs. Je sais que maman, de temps en temps, m'autorisait un peu de noir dans un petit coin pour, si jamais je me trompais, que ça se voyait pas trop. Mais justement, cette interdiction de voir ce que faisaient les grands frères et sœurs m'a toujours attirée. Et je voyais ces tonnes de laine en stock autour de moi. Ça me passionnait. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir osé. D'avoir osé aujourd'hui, c'est ça, je peux être vraiment fière de ça, ouais. Ouais. Je ne sais pas comment je serai dans 10 ans, où on sera en société, mais j'ai osé le faire, et on a des ailes, ça fait avancer.
Merci beaucoup Marie d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et de nous avoir accueillis dans votre atelier. C'est le grand format dans l'agité. Allez, on commence cet agenda culturel de la semaine avec non pas une date, mais une série de dates allant du 12 au 18 mai. Laissez-vous emporter par le paradoxe de Georges de Jan Frisch dans l'écrin intimiste de son camion théâtre installé à Saint-Quentin-les-Anges. Vous vous demandez qui est Jan Frisch ? Eh bien, c'est un magicien virtuose et fin philosophe. Il mêle manipulation de cartes bluffantes et réflexion profonde sur notre fascination pour l'illusion. Pourquoi aimons-nous tant voir l'impossible se réaliser sous nos yeux tout en sachant que c'est faux ? Une heure de prestidigitation poétique, de questionnement sur le vrai, le faux et ce que nous choisissons de croire. Un moment rare à la frontière du spectacle, de la performance et de la méditation collective. Alors c'est un événement qu'organisé par le Carré, le Cargo à Segré et la saison spectacle vivant du pays de Cran. Retrouvez les différentes dates et horaires de ce spectacle sur le site du Carré de Château-Gontier. Allez, et on continue de sortir de nos salles. Écoutez Roland Bouchon, directeur du théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe, qui nous parle de ce qui vous attend demain, le 10 mai.
L'Arzac, c'est un temps un peu hors du temps qu'on va vous proposer. La première chose importante, c'est de vous raconter aussi le lieu et pourquoi on l'a choisi, puisqu'il ne va pas se faire à la Seine-Joël-le-Teul, mais il va se faire dans une ferme. Alors je m'en explique. L'Arzac, c'est Philippe Durand que j'ai rencontré. Et Philippe Durand, c'est un comédien avant tout, mais il aime aller voir les gens qui se retrouvent parfois en difficulté. En tout cas, c'est comme ça que j'ai connu son travail, puisqu'il était allé interroger, je veux dire, des ouvriers qui étaient en grève. Et il avait, sur cette base-là, de tout ce matériau de collectage de témoignages, il avait fait une très belle pièce touchante qui nous avait alerté, en tout cas au niveau national, sur les difficultés que les ouvriers pouvait rencontrer aujourd'hui. Comme c'est un comédien talentueux, il en avait fait une très belle pièce de théâtre. Là, il vient nous voir avec l'Arzac, simplement pas nous parler de l'Arzac des années 80, des années Mitterrand, mais plutôt qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les agriculteurs qui sont installés depuis maintenant une cinquantaine d'années sur l'Arzac, et il les a fait parler. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous vivez l'agriculture chez vous, au l'Arzac ? Et comment vous regardez l'agriculture en France et au niveau mondial ? Donc, il va avoir tous ses habitants dans l'Arzac, il collecte ses témoignages, il prend sa panoplie d'acteurs, de comédiens, et il va pendant 1h20, faire parler tous ces agriculteurs, mais il n'y a pas que des agriculteurs, il y a aussi des théâtreux, je crois, des comédiens qui rencontrent sur ce territoire-là. Il y a son jeu d'acteur qui est formidable, parce qu'on entend, on oublie au bout d'un moment son visage, et on entend bien par des petits jeux de mise en scène toutes ces personnes différentes qu'il va rencontrer. Ça nous questionne bien sûr sur l'agriculture d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un sujet nouveau, mais en tout cas, il le remet sur la table avec beaucoup d'émotion, parce que ce sera avec les paroles brutes de ces agriculteurs. Bien sûr, ça posera la question aussi, qui m'a aussi beaucoup touché, moi, à titre personnel, c'est de la transmission du patrimoine, en quoi c'est important d'être propriétaire, et vous verrez, ça c'est une deuxième surprise très forte de ce spectacle, que même si on n'est pas lié à la question de la thématique de l'agriculture, je suis propriétaire de ma maison, transmission à mes héritiers, moi ça me parle, à cet endroit-là, je préfère déjà vous ouvrir à une des richesses, vous allez vous découvrir qu'ils ne sont pas propriétaires de leurs biens, et comment eux, ils questionnent leur vie par rapport à cette notion de je suis propriétaire, c'est important, je ne le suis pas, j'ai des dettes ou je n'en ai pas. Donc c'est une façon de vivre aussi qui, moi, m'interroge, que j'ai envie de partager avec vous, parce que ça, à cet endroit-là, ça nous parle à tous. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure qu'on découvre toutes ces façons de vivre qui sont des modèles alternatifs qui existent chez nous, en France, et qu'on parle, à mon avis, peut-être pas assez souvent, c'est-à-dire qu'on peut concevoir la vie complètement différente avec nos familles, et bien on se pose aussi la question sur la retraite. Comment sont payées leurs retraites puisqu'ils sont pas propriétaires, et comment ils cotisent puisqu'ils... Enfin, voilà. Et à la fin, il nous guide et il répond à beaucoup de questions. Donc, c'est à la fois un temps de théâtre, un temps où on va découvrir un territoire qui est sur notre, qui est chez nous et qu'on connaît très peu, et en même temps qui questionne notre quotidien sur l'actualité brûlante avec les agriculteurs aujourd'hui qui remontent sur au créneau. Tout ça dans une ferme qu'on a découvert, qu'on est allé visiter à côté de Souvigné, et on avait envie de travailler avec eux sans particulièrement avoir une idée précise. On a été plusieurs à rentrer dans une pièce, et tout de suite ça fait le déclic avec nos partenaires, avec la commune de Souvigné, en se disant on va le faire là, et peut-être pas dans la salle des fêtes, c'est ici. Et comme c'était petit, on s'est dit on va le faire deux fois dans la journée. Et cette journée, c'est bien sûr deux fois le même spectacle auquel il reste très peu de place, donc il ne faut pas traîner. Et en même temps, si vous venez avec vos enfants, parce que ce spectacle est quand même à partir de 10 ou 11 ans, mais les plus jeunes pourront, pendant qu'on y a le spectacle, seront pris en charge pour visiter la ferme, qui est une ferme pédagogique. Comment les abeilles, les ruches, ça fonctionne, comment les semis, ça fonctionne. Donc voilà, il y a vraiment une journée dans cette ferme-là, dans laquelle il y a ce spectacle magnifique de Philippe Durand, l'Arzac, et une façon un peu originale d'aller sur les territoires, tout simplement, avec un chouette partenariat avec la commune de Souvigné, qui nous a ouvert ses portes.
On continue et termine sur une scène qui appelle le soleil. Et oui, je parle du retour des guinguettes et là particulièrement le 11-22. Elle a repris du service sur les bords de la Mayenne à Laval. Ambiance estivale, concerts, rire et bonne humeur seront au rendez-vous tout au long de la saison. Vous le savez bien et notamment à ne pas manquer le Borderline Comedy Club que vous connaissez maintenant plutôt bien. Dans cette émission, il investit la scène pour une série de soirées stand-up à ciel ouvert. Premier rendez-vous le jeudi 15 mai à 19h pour une soirée placée sous le signe de l'humour. Deux autres temps forts vous permettront aussi de découvrir les talents d'ici le 17 juillet et le 14 août, à bien noter dans vos agendas à partir de 19h chaque soir, avec des humoristes donc locaux, notamment des voix fidèles et régulières de l'autre radio. L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez bien à l'écoute de l'autre radio puisque votre soirée commence à 19h avec Dance Hall Social Club. L'émission sera suivie à 20h de Tempus Fugit avec nos deux animateurs Fred et Plôme qui partagent une passion pour la musique, mais chacun avec des goûts musicaux différents. Maintenant, je vous propose quand même un petit coup d'œil sur le week-end de samedi matin à 10h. On retrouvera notre animateur Benoît, toujours matinal, avec son émission Histoire épique. À 13h, nous serons plus musicales avec Rock Dreams, qui cette semaine fera un focus sur les groupes Rouen, Java et Soviet Supreme. Dimanche à 19h, c'est l'émission On lit quoi nous. Véronique et Simon nous parleront de toutes les littératures jeunesse, des plus petits aux jeunes adultes. Alors c'est notre émission mensuelle sur l'actualité du livre jeunesse, celle des éditeurs également, avec des interviews d'auteurs, d'illustrateurs, des chroniques et des lectures. Moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, laissez les heures vous glisser entre les doigts sans trop les serrer. Le week-end approche, pour ceux qui n'y sont pas encore, savourez-le, vous le méritez. Et s'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin. Bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.